Jean Lorrain, l'homme aux têtes de cire. Elle me poursuivait comme une obsession. C'était une figure de femme, en vérité d'une étrange expression de mutisme, avec ses yeux d'un bleu dur, profondément enfoncé sous l'arcade sourcilière, son nez droit, et sous ses cheveux blonds ramenés en couette, près des tempes, son front barré d'obstination. Il la coiffait ainsi d'un casque, ses cheveux d'un jaune brillant et lisse, et montait, elle mettait à sa nuque comme des plaques de métal. Mais de cette tête obstinément muette, le grand charme, comme le vrai mystère, en était le sourire. Un écarlate sourire aux lèvres renflées et sinueuses, comme scellées par je ne sais quel serment farouche, le sourire impérieux d'une âme qui se refuse, un sourire qui ne souriait pas. Modelée en pleine cire, elle était d'une délicatesse de ton et de détail infinie, et dans la pénombre de l'atelier où je venais d'entrer sur les pas de Gormaz, cette tête disait non, immobile sur son cercle, presque surnaturel par l'intensité de la bouche orgueilleuse et des yeux de la pie. Était-ce l'heure crépusculaire, mais dans l'équivoque décor du hall encombré de bibelots, d'étoffes anciennes et de branches, nudité de statues que la nuit animait vaguement, un imperceptible froncement des narines, dû sans doute à quelque jeu de lumière, semblait accentuer encore son indomptable expression de défi. « Symphonica Eronica !»« La symphonie héroïque !» me soufflait Gormaz à l'oreille. Je m'étais approché près du socle, cherchant à déchiffrer les caractères bizarres qui étaient inscrits. « Oui, la symphonie héroïque de Beethoven, tout simplement, mais le curieux, c'est que la femme de cette tête existe. Ce sourire qui ne veut pas, à ce profil de Valkyrie rôdant, du soir au matin, par les rues d'Auteuil, et vous les rencontrez journellement. Un modèle ? Hasardai-je intrigué. Non pas, non pas. Elle a consenti pour une fois à monter sur la table. Un modèle, et ça n'a pas été sans mal. Elle ne voulait pas devenir déesse, mais nous l'avons tant suppliée. Vous voyez qu'il eût été dommage qu'une pareille femme ne consentît pas à laisser évoquer une pareille vision. Les mains croisées derrière le dos, Gormaz attachait, comme moi sur la cire peinte, deux yeux devenus lointains de rêve et d'admiration. « Mais cela réconcilie avec la vie, » reprenait-il en poursuivant sa pensée, « et cela console presque de l'ennui d'y marcher. On peut y rencontrer de semblables créatures, et encore, les rencontre-t-on ? Non ! Car vous croiseriez Raymond Daube dans la rue, c'est ainsi que nous l'appelons, que nous ne la reconnaîtriez pas. La meilleure preuve en est que vous l'avez déjà 100 fois vue, et que ne vous a pas frappé. Une jolie femme qui passe est une nuit possible, ou parfois impossible, à 5 ou 20 louis près, qu'on désire à 20 ans, et qu'à notre âge, hélas, on regarde avec un soupir de regret, et on la laisse aller ailleurs. On est si las, si revenu de loin des autres et de soi-même, le cœur a peur. À quoi bon recommencer ? Il n'y a de vrai dans les femmes que l'idée qu'on s'en fait. Nous chantons des romances à des poupées, et quand le chanteur a quelque chose dans le ventre, la poupée devient statue. Voyez cette cire, Raymond Daube, Rayon Daube, est une belle fille rose et blonde dont Paris a fait une entrevue, une entretenue. Ringuel, lui, l'a rencontrée et en a tiré cette tête mystérieuse d'héroïsme et de refus. C'est donc Ringuel qu'il faut remercier. Et comme je demandais, mais quel est donc ce Ringuel ? Engel, me répondit Igor Mas, un méconnu, un artiste très curieux, qui vous intéressera et que je vous ferai connaître. Il habite à deux pas, avenue du Point du Jour. Venez me prendre un matin, je vous mènerai dans son atelier, mais laissez-moi le prévenir. C'est un garçon susceptible, ombrageux, un peu sauvage. Consigné à la porte du Champ de Mars comme des Champs-Élysées, après y avoir obtenu jadis la médaille d'honneur, il se croit persécuté, victime d'une cabale ou tout au moins d'une injustice, et n'ose pas facilement franchir son seuil. D'ailleurs violent, un vrai tempérament d'aventurier. Au physique, un vrai condottiere de la Renaissance. Il vous intéressera prodigieusement. Mais voici la nuit, permettez que j'allume. Oh, inutile, lui disais-je, et je prenais congé. Un hangar à la toiture vitrée au fond d'une petite cour fermée par une barrière à claire-voie, un anneau attaché à une corde mettant en branle une sonnette rouillée, un grand gars svelte et musclé dans un tricot bleu qui le moule, entrebâille la porte du hangar. « Entrez !» nous crie-t-on. C'est Ringel, et maintenant cassé dans son atelier, peuplé de monumentales statues d'une blancheur crayeuse, avec ça et là, posé sur des tablettes, le sourire inquiétant et figé de cire peinte, je regarde ce couple, et trop long garçon à la carnation de blond hâlé, comme rissolé et recuite, s'activer autour d'une terre mouillée, qu'il ébauche avec des agilités de clown et des souplesses attentives de chat guetteur. Je ne puis m'empêcher de contrôler, dans ma mémoire, toutes les histoires plus ou moins absurdes et folles qui m'ont été contées sur ce Ringel. La tête expressive est tenace, la bouche sardonique, sensuelle jusqu'à la coloration du teint chaud, charnu, et plus sobre que la moustache d'un blond pâle, sont bien celles d'un homme d'aventure et d'audace, d'un de ses hardis compagnons, moitié lorrain, moitié allemand, que les Guises amenèrent à la cour des Valois et qu'on est tout surpris de retrouver dans les chroniques du temps, nonchalamment accoudé, une dague à la main, un bilboquet dans l'autre, sous les plafonds à caissons fleurdisés du Louvre, le sourire aiguisé par la corruption de l'époque, dangereux, affiné, devenu italien, dans les intrigues florentines d'un Henri III et d'une Catherine. Presque vis-à-vis de moi, un plâtre, une grande figure de femme, nue, au sourire équivoque, hanché, à demi-penché, vers un petit miroir qu'elle tenait à la main, et ses cheveux en ondes, traversés de fils de perles, étaient bien ceux d'une madame de Sauve ou de quelqu'une de ces demoiselles d'honneur, perverties et pervertissantes, à la solde de madame Catherine, pour en fondre l'énergie et délier les serments des partisans du Béarnais ou du Lorrain, ennemis du roi. Si la théorie des avatars est vraie, c'est dans quelques couloirs tenus enduits de tapisseries, des châteaux de Blois ou d'Amboise, que Ringel avait dû rencontrer, jadis, cette fastidieuse et souriante créature. Elle sentait le piège, l'embûche et la luxure, et dans la nuit de la Saint-Barthélemy, elle avait dû certainement, comme beaucoup de femmes d'alors, étreindre rageusement le meurtrier du jour, dans le lit tiède encore du parpaillot de la veille, tout heureuse de retrouver le goût du sang de l'assassiné sur les lèvres de l'amant adoré de la minute présente. La perversité, comme s'intitulait la statue, et le souvenir me revenait du scandale qu'elle avait soulevé en 1878 au salon, et des clameurs et des pudeurs amenées autour de la chaude transparence de ses chairs, du poli de ses genoux, et de la rose humidité de ses lèvres. Car la figure était de cire tout entière, et tout entière palpitait dans sa pose équivoque et archarmeuse d'une telle vie qu'elle énervait comme un danger tout en exaspérant le désir. La foule s'y était portée comme une indécence, si bien qu'on s'en était ému en haut lieu et ordre était arrivé d'avoir ôté la statue scandaleuse. Mais l'artiste n'entendait pas ainsi. Admis par le jury, il ne reconnaissait qu'au jury le droit de supprimer son œuvre. Et avec la violence d'un homme d'une autre époque, il avait deux nuits durant monté la garde, le revolver au poing, devant sa cire peinte, tel un chevalier des siècles héroïques au pied d'un donjon de sa dame, prêt à tout pour protéger. Et quand les commissionnaires dépêchés par l'autorité étaient venus pour enlever la statue, mon homme avait bravement engagé la lutte au pied de sa perversité, qui, ébranlée, secouée de toutes parts, se brisait et s'effondrait sur son socle, symbole étrange d'une œuvre ne voulant pas survivre à l'affront infligé à son créateur. Cette aventure à la Benvenuto Cellini lui ressemblait bien, en effet, et plus je le regardais avec son profil hardi, son crâne tondu, ras et sa nuque violente sous la lueur frissonnante de sa toison, mieux je me le représentais fièrement campé devant sa statue et les bras croisés sur la poitrine, tenant tête à la foule et défiant les gens de toucher à son œuvre. Et pourquoi cette perversité s'était-elle effondrée subitement? Était-ce là un pur hasard? N'y avait-il pas en cet homme du magicien? Il avait dû rapporter de Florence, ou tout au moins de la sainte cour des Valois, où il avait vécu entre Madame Catherine et René le Florentin, dans une société adonnée tout entière à la science des filtres et des envoûtements. Il avait dû, certes, en rapporter quelques secrets mystérieux d'art occulte et captivant, car au milieu des bustes de plâtre et des masques de glaise, elle vivait étrangement. Les deux têtes de cire où mon œil s'attardait maintenant, deux têtes de modèle arrangées dans le goût florentin, avec la chevelure lourde et auréolant le front comme d'un nimbe, des figures de la Renaissance, l'une celle d'un garçon de 20-25 ans, au profil brusque, aux lèvres épaisses et imberbes, les maxillaires développés, avec au menton le coup de pouce du modelage, rappelait vaguement le Laurent de Médicis des musées. Le hausse col du reître, le bombement de la cuirasse, et sur les boucles brunes les plaques d'acier du casque en complétaient l'agencement. C'était une œuvre vigoureuse et hardie. L'autre, au contraire, tête de femme ou de jeune garçon, à la fois obstinée et endolorie avec les lèvres d'un rose fané, la transparence de ses chairs un peu fiévreuses et la terreur de ses yeux fixes, vivait et souffrait d'une intense souffrance, et je ne sais quel charme cruel émanait de cette jeune tête épouvantée et muette. La tête douloureuse, ardente et maladive, ah, dans le morne attrait de sa grâce native, le charme d'une vierge et d'un garçon pervers. Favori de prélat ou savanante Ophélie, son énigme est souffrance, enivrement, folie, et comme un filtre noir coule dans ses yeux verts. Certes, ses yeux meurtris et cette pâleur en disaient long dans leur silence. Elle avait souffert dans sa chair et dans son âme. À quelles horribles voluptés l'avait-on initiée? Mais une pitié vous prenait, relevée de je ne sais quelle curiosité malsaine, devant ses yeux d'enfant devenus des yeux de femme, à force de fixer quel atroce cauchemar. C'est dans le château des Tiffages, dans la bouche de Cille de Ray, que que j'évoquais la sinistre aventure de cette tête coupable. Et puis de mystérieuses histoires me revenaient sur les scieriers du Moyen-Âge et la réprobation publique attachée à leur métier. Ne vivaient-ils pas dans des caves, dans un éternel clair-obscur propice aux enchantements et aux apparitions? Leur art visionnaire, qui jamais plus qu'eux n'évoqua l'image réelle de la vie, était proche parent de celui des magiciens. Les envoûtements se faisaient par les figures de cire. Les procès de sorcellerie en sont pleins. Et une légende me hantait entre toutes, celle du modeleur d'Aspar, soutirant lentement l'âme et la vie de son modèle pour en animer sa cire, peinte, et son chef-d'œuvre terminé, attendant la nuit close pour aller ensevelir un cadavre dans les fossés du rempart. Rinjal avait-il deviné ma pensée ? « La jolie tête, hein, » disait-il, en me désignant la cire comme pétrie d'épouvante. « C'est un petit Italien qui me l'a prononcé, et les artistes d'aujourd'hui prétendent qu'il n'y a pas de modèle. Ils n'en savent pas voir. J'ai rencontré celui-là dans la rue un soir de décembre, grelottant, hâve et mendiant presque. Je me prenais pour un agent. Il avait une peur. » C'est sa terreur que j'ai saisie. Il était délicieux d'épouvante. Et qu'est-il devenu ? Interrogeai-je, un peu troublé. Oh, est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent tous quand ils posent trop jeunes et roulent aimant enfant la misère à Paris ? Je crois qu'il est mort phtisique. Vous en êtes certain ? Insistai-je. « Oui, il est bien mort, le petit Antonio Monforti, et à Bourgeon, n'est-ce pas ? Regarde, à Bourgeon !» Et Gormas ayant fait signe que oui, j'entendis une voix qui me susurrait à l'oreille « C'est cette cire-là qu'il faut avoir !»